J'accueille nos deux invités, donc Emmanuel Hussonnet, qui nous vient du Grand Nord, qui arrive directement du pôle Nord pour nous ce soir. Vous voyez, il a amené une photo de son village. Et puis, Laurent Giraud, qui vient d'Angers. Et je vais les présenter l'un après l'autre. D'abord, je vais présenter Emmanuel Hussonnet. Alors, Emmanuel Hussonnet est un aventurier du Grand Nord. Il a été dans le Grand Nord pour beaucoup de raisons, pour accompagner des voyages, pour des voyages en kayak de mer, des voyages en chien de traîneau. Et le Grand Nord n'a pas de secret pour lui. Et c'est quelqu'un qui a quelque part, vous avez consacré 20 ans de votre métier, de votre vie professionnelle au Grand Nord, on peut dire ça ? Au moins 20 ans, au moins 20 ans. Et non seulement vous avez accompagné des gens dans le Grand Nord, accompagné des expéditions, vous avez monté une association, vous allez nous dire ça en détail, mais en plus vous avez mené une réflexion sur le sujet, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et je cite deux de vos livres, un livre qui s'appelle « Le testament des glaces ». Vous voyez, c'est tout un programme. Et le deuxième livre qui s'appelle « Robinson des glaces ». C'est bien ça ? Voilà. Et vous collaborez à beaucoup de revues, dont « Chemin d'étoiles »,« Village magazine », etc. Voilà, je présente deux de ces essais, « Robinson des glaces », une aventure au bout du monde pour sauver la planète. Ça vous donne déjà un petit peu une idée du personnage. Et puis, le deuxième livre s'appelle « Le Nouveau Monde ». Regard sur la disparition des banquises et sur le sens des choses. Donc, un autre aspect du programme qui nous met largement en appétit pour aller à sa rencontre. Tout à l'heure, il va commencer par nous faire un exposé, mais je présente déjà Laurent Giraud. Vous allez avoir sans doute des éléments complémentaires à rajouter, vous n'hésiterez pas. Laurent Giraud, je tourne mon papier sans... Même s'il habite dans la rue d'à côté de chez moi et que nous nous connaissons depuis 20 ans, Laurent Giraud, on a aussi une autre caractéristique commune, c'est qu'on est ingénieur agronome tous les deux. Et Laurent, il a travaillé toute sa vie dans l'environnement. Il est actuellement directeur d'une structure de production d'énergie dans la région d'Angers. Et à côté de ça, il a mené une carrière d'élu local, d'abord au conseil municipal d'Angers, puis à la région des Pays de la Loire, où il est conseiller régional depuis 10 ans. Il est actuellement vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire en charge du climat et de l'énergie. Et il a aussi des responsabilités au niveau de l'Assemblée des régions de France pour présider la commission climat-énergie au niveau national, au niveau de l'Assemblée des régions de France. Il a toujours été engagé politiquement au niveau du centre et c'est un élu qui essaye d'être cohérent et engagé. Tout à l'heure, nous allons le découvrir. Donc, vous voyez, on a un grand écart, un pied dans le pôle et un pied dans notre région des Pays de la Loire. Alors, je commence à donner la parole. Ça va pour votre présentation, Laurent ?
Très bien.
Très bien. Alors, je donne la parole à Emmanuel pour un premier temps de présentation. Vous allez nous emmener très loin.
Merci Geoffroy et merci pour cette invitation ce soir et merci à vous tous de vous être déplacés et merci d'avance aussi pour votre attention. C'est pas une demande, c'est juste une forme de gratitude parce que c'est écouter quelqu'un, c'est donner de soi aussi. Voilà, alors comme on l'a dit brièvement, moi mon métier, enfin j'étais tout jeune. À l'école, c'était bizarre, mais je trouvais que le monde avait quelque chose de suspect. On essayait de faire de moi, je ne sais pas quoi exactement. j'ai pas réussi à visualiser, en tout cas ce qui me faisait souffrir, parce que j'en souffrais réellement, c'était l'idée que la forêt amazonienne disparaisse. Alors je me suis dit, ma vocation dans la vie, c'est de sauver la forêt amazonienne. J'ai pas pris la bonne direction, mais j'étais animé par la conviction que quelque chose était pas très clair, en fait, dans le système dans lequel on vivait. Et à cette époque, on n'en parlait pas beaucoup, hein, de l'écologie. Il n'y a pas tellement de critiques du système. Et c'est en allant, j'irais presque par hasard, par égarement, en Norvège, aux îles Lofoten, pour ceux qui connaissent, que j'ai découvert la lumière. La lumière au sens physique, qui était aussi une forme de lumière intérieure. Et l'espace. C'était vaste, c'était la mer, je connaissais très peu la mer. Et tout à l'heure, on disait que l'océan, c'était le quatrième élément, l'état de l'eau. Moi, j'ai le sentiment que la mer, ce n'est pas de l'eau. C'est autre chose, c'est beaucoup plus fort que ça. Ça ne limite pas, évidemment, à de l'eau. Et c'est comme si je retrouvais là-bas un paysage intérieur. Donc, je n'ai eu de cesse, quand on a 20 ans, on cherche sa place, que d'y retourner. Et j'enviais énormément les gens qui ont organisé des expéditions là-bas. C'était une agence de voyage qui s'appelait, enfin une association à l'époque, Grand Nord, Grand Large. Et les gens qui avaient vu des glaces, ça me semblait quelque chose d'incroyable. Et dès 1990, j'ai vu mes premiers icebergs au Groenland. Et je me suis dit, voilà, quelle sera ma vie? Elle tournera autour de ce point, petit point blanc que j'apercevais d'un avion. Ça a été pour moi quelque chose de décisif, et sans m'en apercevoir, au fil des années, je suis devenu une sorte de phénomène, quelqu'un d'un peu spécial, qui faisait les choses que les autres ne faisaient pas. Moi, ça me semblait naturel, parce que j'avais que des amis qui faisaient un peu la même chose que moi. Et petit à petit, j'ai acquis une connaissance relativement étendue des régions polaires, enfin des circumpolaires, de l'Arctique en particulier, du Haut-Arctique. Et la glace a pour moi été une véritable quête. C'est-à-dire aller toujours là où il y a le plus de glace possible, et non pas là où il fait le plus froid, mais parce que le froid n'est pas intéressant, mais où les glaces sont les plus inhospitalières, les moins visibles. Et lorsqu'on a parlé beaucoup de l'environnement dans les années 2000, vous vous souvenez sans doute du film d'Al Gore, Une vérité qui dérange, de l'appel du pacte écologique de Nicolas Hulot, aussi de l'écologie qui s'était invitée aux élections présidentielles aussi en 2007. J'ai cru intéressant d'apporter ma voix à ce discours, à cet effort qui semblait collectif pour résoudre l'équation de la question de la survie de l'humanité dans un monde qui se rétrécit. Alors j'ai voulu mettre à profit mon expérience des glaces. Et c'est ainsi que j'ai organisé les premières expéditions qu'on appelle des romassons des glaces. Il était question de se laisser dériver sur des plaques de banquise pluriannuelles le plus longtemps possible. Alors, juste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous voyez sur l'image, qui évidemment, bon, la projection du pôle Nord, en été, c'est-à-dire c'est ce qu'il reste des glaces quand tout a fondu fin août. Donc c'est toute la partie de la mer qui est recouverte encore de glace, c'est ce qu'on appelle de la banquise pluriannuelle. Et cette banquise-là a un rôle déterminant sur tout l'ensemble du système climatique de l'hémisphère boréal. Ce froid-là permanent tout au-dessus de nous, au pôle Nord, ce sont des hautes pressions. Des hautes pressions autour desquelles gravitent les dépressions. Et c'est des masses d'air froid. Ce qu'on nous enseigne aujourd'hui, ce que nous disent les scientifiques, et qui n'ont pas forcément tort, c'est que tout ça, c'est en train de disparaître. Ça va revenir, ça disparaît justement. Et voilà, voilà. Ça, c'est en hiver. C'est l'hiver, la mer gèle, et ça gèle sur à peu près un mètre d'épaisseur. Après, le printemps arrive vers le mois de juin, juillet ou plus tard, voire début août, dans les régions les plus méridionales, les plus septentrionales, la banquise d'hiver disparaît et laisse l'eau libre et on peut naviguer. N'oubliez pas que l'Arctique, il y a des saisons. Alors souvent on dit, voilà, il fait tout le temps froid, c'est quoi votre record de température là-bas? Moi j'y vais en été essentiellement parce que ce qui m'intéresse c'est de naviguer. C'est la relation à l'élément. C'est l'élément mer, l'élément glace, l'élément terre. En hiver, ben, il n'y a plus que de la glace, il n'y a plus que du blanc, c'est un peu moins drôle. Et c'est surtout qu'en hiver, on est dans une situation de survie en permanence. Alors qu'en été, quand il fait entre 0 et plus 10 degrés, je ne dis pas que ça soit confortable, mais c'est vivable. On peut faire autre chose que de lutter pour survivre. Donc ça, c'est en hiver, en théorie. Et quand ça disparaît, il y a ça. Donc ce qui reste, la banquise pluriannuelle. Et c'est celle-là qui nous intéresse parce que c'est celle-là qui a un rôle déterminant sur le climat. Alors, juste pour mieux se représenter, parce qu'on est plus familier avec les milieux des déserts, avec les milieux des forêts. Entre une glace pluriannuelle et une glace annuelle, on ne fait pas forcément la différence. C'est autant de différence, si vous voulez, qu'entre une forêt vierge équatoriale et une savane. En fait, la savane, ça serait la banquise, parce que comme elle est annuelle, la savane, elle reverdit, après elle fane, alors que la forêt, c'est beaucoup plus épais et c'est permanent. Ça, c'est de la banquise annuelle de fjord, la même banquise annuelle, pas au même endroit, mais au printemps, fin juin, elle est en train de se disloquer au moment de la débâcle. Vous voyez que c'est pas épais. En fait, vous pouvez marcher dessus, mais c'est quand même pas très stable. Hein. Ça fait là à peu près 80 cm d'épaisseur, dont une dizaine de centimètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est vraiment pas épais. Et en une semaine, tout ça, ça a fondu. Une fois que c'est parti comme ça, ça survit pas. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence. Mais elle est capitale, en fait, pour notre avenir à tous. C'est curieux de dire ça, mais... Parce que ça s'est formé sur l'océan glacial arctique. C'est une banquise qui peut avoir 7 ans, 8 ans d'âge, voire 15 ans. Alors évidemment, les scientifiques, dont je commençais à en parler, ils nous disent que tout ça risque de disparaître d'ici 2040, 2050, ce qui signifie qu'on aurait un océan glacial arctique libre de glace toute l'année. Ce qui permettrait un réchauffement de l'océan glacial arctique, donc un ralentissement du Gulf Stream. Pourquoi ? Parce que moins on a de masse d'eau froide, moins la circulation thermohaline est dynamisée, c'est-à-dire plus le Gulf Stream, il existera toujours parce que son principal moteur c'est le vent, donc il y aura toujours du vent, il y aura toujours le Gulf Stream, mais il ralentit et il monte. Les courants chauds aujourd'hui remontent parce qu'ils occupent la place que n'occupent plus les eaux froides. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, dans cette aventure, je vais vous montrer après des images filmées, voir un peu comment ça se passe quand on vit dans ce milieu-là. Il était question, justement, en 2007, quand on parlait beaucoup d'environnement, d'alerter, je dirais, le grand public sur le devenir de la planète. Parce que si cette banquise disparaît, eh bien, il fera très vite beaucoup plus chaud dans notre hémisphère. Et là, je pense que la question du réchauffement climatique, elle sera déjà indiscutable. Bon, elle l'est plus scientifiquement, bien entendu. Mais c'est surtout qu'on ne pourra absolument plus rien faire. Je pense qu'on aura franchi un point de basculement qui sera irrémédiable. Donc c'est ça le grand danger. Et pour alerter de ça, eh bien, on voulait se laisser dériver sur ces plaques de banquise en s'installant dessus. Il faut déjà les approcher, c'est pour ça que le kayak est indispensable. Un bateau, c'est trop gros. Il faut pouvoir, une fois qu'on est coincé entre deux plaques de banquise, il faut descendre sur la banquise, monter dessus et puis tirer les kayaks pour retrouver l'eau de libre éventuellement de l'autre côté. Ou alors continuer de marcher sur la glace jusqu'au moment où on n'en peut plus. Et on monte la tente à même la glace et on se laisse dériver. Voilà, c'était ça le but du jeu. Ça n'a jamais été tenté, à ma connaissance, de façon volontaire. Ça a été subi au 19e siècle par des expéditions américaines et allemandes, non en particulier. Et tout le monde a survécu. Hein. Ils ont dérivé pendant 8 mois, tout l'hiver, le long du côte de Groenland et de la mer de Baffin. Tout le monde a été récupéré. Et on voulait vivre ça vraiment pour montrer comment ça se passe. Techniquement, le matériel qu'on a, c'est ça, un kayak. Là, c'est un kayak biplace. Où on a tout le matériel, évidemment, pour survivre des semaines dans ce milieu, comme qui dirait, hostile. Alors, vous reconnaissez tout de suite ce dont je vous parle. Au premier plan, c'est cette fameuse banquise pluriannuelle. Cette banquise-là, ça se passe sur la côte est du Groenland, à la même hauteur que l'Islande, à le niveau de Tassilaq. Je ne sais pas si vous voyez la région qu'a fréquenté Paul-Émile Victor à Massalik. Voilà, c'est la même latitude que l'Islande. Cette glace, elle s'est formée 2000 km au nord. Elle s'est formée sur l'océan glacial arctique. Donc c'est une glace qui est venue, acheminée par le courant froid vers le sud, qui a voyagé vers le sud. Voilà. Et ce qu'on voit derrière, ce qui est beaucoup plus gros, c'est de l'iceberg. Ça, c'est de la glace d'eau douce. C'est de la glace qui vient évidemment de la calotte glaciaire du Groenland. Donc c'est une glace qui n'a pas du tout de la même nature, l'iceberg de la glace qu'on a au premier plan, qui est de la glace de mer, qui en surface c'est de l'eau douce aussi, parce qu'avec le temps elle se désalinise. Enfin, c'est comme ça qu'on dit, je crois. Juste pour continuer dans la foulée, voilà, ce sont des dessins qui indiquent la vitesse de rétractation, de dispersion, de résorption extrêmement importante de la glace. Alors qu'il faut bien penser que cette glace permanente, c'est vraiment le climatiseur de la planète. C'est ce qui nous empêche de griller en été. Et parce que cette glace se réduit, on a des températures maintenant qui atteignent 30 à 35 degrés le long des côtes de la Sibérie. Ce qui était impensable il y a simplement une quinzaine d'années. C'est directement la conséquence de la réduction de cette masse de glace permanente, et qui non seulement s'est réduite en étendue, mais aussi en épaisseur. C'est pour ça qu'on risquait notre vie avec dans nos opérations, parce qu'elle n'était pas si épaisse que cela. Bon, ce genre de carte que vous avez déjà vu, hein, c'est simplement pour indiquer que plus on est sur des latitudes élevées, plus l'impact du réchauffement climatique est sensible. Donc, on a perte de l'effet d'albédo. L'albédo, c'est la réflexion des rayonnements solaires sur une surface blanche, ce qui évite en particulier à l'océan de se réchauffer, ce qui n'est pas rien, parce que vous savez, quand on parle de réchauffement climatique, ce n'est pas tellement le climat qui se réchauffe, c'est la Terre qui se réchauffe. Elle se réchauffe, elle accumule beaucoup plus de chaleur qu'elle ne le devrait, et plus de 80% de la chaleur accumulée l'est par les océans. Donc l'effet d'albédo de cette banquise permanente, ça évite à l'océan glacial de participer à ce réchauffement global. Ralentissement des courantes, je vous en parlais à l'instant. Fonte de la calotte glaciaire du Groenland, évidemment, comme il fait plus chaud là-haut, il y a toute la calotte glaciaire du Groenland qui fond. Elle est en déficit sur l'intégralité de sa surface aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on perd plus de glace sur le Groenland qu'il ne s'en accumule en été. Et du coup, la calotte glaciaire du Groenland, elle s'affaisse. Voilà. Fonte du permafrost, ça c'est là en Sibérie avec le sol gelé en permanence qui, lorsqu'il fond, libère du méthane. Vous avez sans doute entendu parler de ça. Et puis acidification des océans. Alors, ce qui est intéressant de savoir par rapport à l'acidification, c'est que l'eau, c'est un solvant. Évidemment, donc vous mettez de l'air au contact de l'eau, l'air il va se dissoudre dans l'eau. Et plus l'eau est froide, plus elle va prendre de gaz. C'est-à-dire que plus l'air est chaud, plus il prend d'humidité, mais l'eau, c'est le contraire. C'est plus elle est froide, plus elle prend d'air, si vous voulez. C'est pour cela que l'acidification, qui est consécutive de l'absorption par les océans du surplus de CO2, est plus nette dans les eaux froides que dans les eaux chaudes. Et les eaux les plus acides sont celles qui frôlent, parce que la côte est des États-Unis, qui est baignée par un courant froid, l'eau est plus acide du côté États-Unis, à la même latitude, que du côté de l'Europe. Parce que nous, on a un courant doux. Voilà. Il y a plus d'acidification de ce côté-là. Donc, c'était quelques généralités. Pour simplement poursuivre et conclure, je pense, ce petit premier volet d'approche géographique générale sur l'histoire climatique. Alors oui, il y a toujours eu des changements dans le climat, oui, évidemment, évidemment. Mais pour remettre les choses brièvement, je dirais, à leur place, de ce qu'on sait, en fait, de ce que savent les scientifiques, des gens qui, je pense, assez sérieux, la Terre a globalement été dans son histoire plus chaude qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on est dans une ère glaciaire depuis à peu près 10-15 millions d'années. Une ère glaciaire, c'est très long. Hein. Là, on parle de période glaciaire, interglaciaire en ce moment parce qu'il y a des épisodes de glaciation comme il y a eu à 10 000 ans. Mais c'est des petits épisodes dans une ère beaucoup plus longue qui est une ère caractérisée par le froid et la présence de glace permanente sur Terre. À l'époque du Jurassique, à l'époque des dinosaures, il n'y a pas de glace sur Terre, ou il y en avait très peu. Et si des animaux comme le manchot existent, si des animaux comme l'ours blanc existent, c'est parce qu'il y a du froid installé sur Terre, mais récemment. C'est-à-dire le manchot, c'est une espèce qui n'a guère plus de 10 millions d'années d'existence. Donc c'est une espèce qui est relativement récente. L'ours blanc, on lui donne peut-être 1 ou 2 millions d'années, pas plus. Donc le froid, c'est un phénomène nouveau. Et on est arrivé avec le froid. Et c'est pour cela qu'on est arrivé, nous, à une période où on a des animaux plutôt sympathiques, déjà. Je trouve que c'est mieux qu'il y a 200 millions d'années. Et surtout, ils ont tous le sang chaud. Vous savez, ceux qui dominent, ce sont les mammifères, les oiseaux, et ils ont tous de quoi se protéger du chaud, enfin du froid, de la fourrure, etc. Nous, on est un peu dépourvus par rapport à ça, on est un peu des bêtes curieuses, mais on est, le froid est vraiment le processus naturel depuis un certain temps, depuis à peu près 14 millions d'années. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand on dit que la planète va prendre 2, 3, 4 degrés, c'est-à-dire 4 degrés, ça signifie que l'on sort de l'ère climatique que l'on connaît depuis 15 millions d'années. C'est ça, la réalité. Alors évidemment, il y a eu des redoux il y a 1000 ans, il faisait vaguement 1 degré, enfin, ça faisait la même température qu'aujourd'hui, il y a 1000 ans à peu près. Mais il y a des petits cycles comme ça, mais globalement, quand on va vers plus 4, plus 5 degrés, on sort de notre ère climatique. Et aucun des animaux que l'on connaît aujourd'hui, la faune, la flore, n'est absolument pas adapté à cela. Et c'est véritablement ça, c'est un danger plus que majeur. Alors, pourquoi, évidemment, on le sait tous, c'est le pétrole. Mais pourquoi, ce dont on ne se rend pas forcément compte, c'est que le carbone qu'on expulse dans l'atmosphère, il s'est formé il y a entre 200 et 300 millions d'années. On estime que l'humanité, elle brûle chaque année en pétrole et en charbon ce que la Terre a mis 3 à 4 millions d'années à créer. C'est phénoménal. Et qu'est-ce qui se passait? Pourquoi à l'époque du Jurassique, des dinosaures, tout ça, pourquoi les animaux étaient gigantesques? Parce qu'il y avait beaucoup plus de carbone dans l'atmosphère, il y avait une végétation aussi luxuriante et extrêmement abondante. Et cette végétation, elle a été fossilisée. D'où tous ces stocks de carbone qui se trouvent dans les sous-sols. Ces stocks de carbone qui sont dans les sous-sols depuis plus de 100 millions d'années, on est en train de les expulser. Et ce faisant, on modifie la composition chimique de l'atmosphère. Cette composition chimique de l'atmosphère, on va le retrouver dans les océans. Cette modification de l'océan s'acidifie, alors que l'océan, à la base, c'est basique. Justement, c'est façon de le dire. Mais donc, là, c'est un peu gravissime, si vous voulez. C'est des choses qu'on n'a pas envisagées. Même la nature, si vous voulez, c'est le professeur Gattuso qui raconte ça, il travaille à Villefranche-sur-Mer. C'est qu'en 200 ans, l'océan se sera acidifié 100 fois plus vite que dans les 55 derniers millions d'années. Pour vous dire les choses. C'est-à-dire c'est parce que tout ce carbone était dans des quantités considérables enfouies dans les strates géologiques. Et ce qui est intéressant, c'est symboliquement. Parce que de quoi on parle, enfin, qu'est-ce que nous enseigne la spiritualité, la recherche de Dieu, c'est qu'elle nous enseigne le ciel. Et elle nous fait craindre la géhenne, enfin, l'enfer, elle nous fait craindre les sous-sols. Et le pétrole, le charbon, ça vient de là. Ça vient de ce qui est enfoui, de ce qui est caché. C'est noir, c'est visqueux. Ça sent pas bon. Et quand on enflamme le pétrole, ça dégage la flamme des enfers. Donc c'est quelque chose symboliquement qui est très, très puissant et très, très ancré dans les symboles du mal et du négatif. Et pourtant, on en jouit tous au quotidien dans la plus grande impunité. Non seulement ça, mais le plus grave, juste pour finir sur cette idée, le plus grave, c'est qu'avec ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que c'est encore extrêmement pernicieux. C'est-à-dire que ce pétrole lourd, visqueux, noir, on le raffine, évidemment, avant de l'utiliser, parce qu'on ne veut pas le voir comme ça. Mais avec cette pollution au CO2, qu'est-ce qu'on fait? En fait, c'est ce qui vient du sous-sol qui va empoisonner le ciel. Donc l'esprit est touché parce qu'il vient de plus bas. Qu'on va chercher volontairement et pour quoi faire au nom d'un pouvoir qu'on a sur la nature, qu'on a sur Dieu en définitive et sur les autres hommes. Un pouvoir supplémentaire parce que la nature, on essaie de la protéger mais on ne l'aime pas. Et je vais juste finir là-dessus pour cette partie-là parce que ça peut être long. On ne l'aime pas parce qu'en définitive, c'est quoi le progrès? C'est avoir chaud chez soi. Si on allait en 2007, si on est allé dériver sur une plaque de banquise là-bas, c'était pour parler aussi de cette loi qui est pas très connue, hein, du code de la construction et de l'habitation, qui interdit de se chauffer à plus de 19 degrés. C'est-à-dire, pour des idées au départ, c'était le choc pétrolier qui avait fait nourri cette loi-là, simplement pour des questions d'économie. Mais aujourd'hui, aux économies budgétaires, s'ajoute la question du climat, c'est-à-dire chauffer raisonnablement. Aujourd'hui, on n'en parle plus du tout parce que dès qu'on touche à la notion de confort, aujourd'hui, c'est le levier de bouclier. Non, surtout pas toucher au confort, c'est sacré. On a fait de ce qui est superficiel et globalement plutôt inutile quelque chose de sacré. Et l'essentiel, ben, c'est dans les loisirs. Alors oui, on a le droit de penser ce qu'on veut, hein, il n'y a pas de souci. On a le droit de se rassembler ici aujourd'hui, mais ça ne change pas le monde. C'est pas comme là-dessus que ça s'appuie l'économie, le même politique. La vision du monde ne s'appuie pas là-dessus. Donc tout ce qui était essentiel, qui était au centre, on l'a mis en périphérie. Et ce qui ne devait être que périphérique, matériel, on l'a mis au centre. Je pense que c'est ça le grand enjeu de notre civilisation aujourd'hui. Et en parlant de cette idée de chauffage, le chauffage... Quand on vit sur une plaque de banquise, on dort sur de la glace pilée, un peu comme les poissons, ce que vous voyez sur les étals des marchés, c'est la même chose. En plein été, alors vous voyez, c'est pas super confortable, mais on survit. On s'en porte pas plus mal, hein, au demeurant. C'est pas de ça dont on meurt, franchement. Donc, c'est pour dire, faut dire que le pétrole nous a apporté beaucoup de choses et beaucoup de choses superflues. Et lorsqu'on prend l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Finalement, on nie les distances. On nie le temps, on enjambe en fait les océans comme s'ils n'existaient pas. C'est-à-dire qu'on essaie de vaincre le temps. Le temps, on apprend beaucoup de choses avec le temps. On vaincre les distances quand on les fait à pied, c'est autre chose. C'est un enseignement, c'est un travail de notre humanité, de marcher, de se déplacer à travers le monde. On ne se déplace plus, on enjambe quand on est projeté, on est pratiquement téléporté. Et ainsi de suite. Et ce projet ce confort qu'on recherche aussi à travers la chaleur, c'est une forme de séparation de la nature. On l'aime bien dans les loisirs, mais dans la vie au quotidien, on ne l'en veut pas. Voilà. Alors juste pour arrêter cette... Alors je reviendrai juste là-dessus. Oh oui. Hop. Maintenant, je vais vous passer un petit film que je commenterai éventuellement. C'est pas très long, mais ça continuera de nous mettre dans le bain. C'est pour vous que vous voyez comment, en pratique, ça se passe quand on navigue dans ces glaces-là avec simplement un petit kayak de mer. On est sur la côte est du Groenland, région de Tassilaq. Oui, je vais commander. Là, c'est ce qu'on voit, c'est... Ça va trop vite. Je peux vous raconter. Voilà. Ça nous arrive tous les jours. Hein. Mais Luc, plus que moi. Hein. Ça, j'avoue que... Le piolet, c'est indispensable. C'est un équipement à la fois de montagne qu'il faut et de navigation. Alors là, c'est moi qui nage. Là. On ne me reconnaît pas forcément, mais... Ouais. Mais j'avais fait pour l'image, hein, pour le film, mais on a dû faire trois fois la scène. Alors. Voilà, et on s'est aménagé sur une plaque de banquise, de quoi vivre. Il y a un film qui s'appelle Ultime Banquise qui tourne en connaissance du monde actuellement, parce que ça c'est simplement un extrait du film. Voilà, on avait beaucoup de glace au début, à la fin on n'avait presque plus, avec jusque quelques morceaux comme ça qui traînaient, et tout disparaissait. Tout disparaissait, ça fond, et on est vraiment arrivé à l'endroit où c'était un peu le cimetière des glaces comme il y a le cimetière des éléphants. Alors, ce que vous voyez, c'est vraiment une plaque de banquise pluriannuelle. C'est un élément de plus en plus rare. Je pense que ce type d'image, ça sera partie de bientôt de documents d'histoire naturelle, hein, parce que peut-être que de la nature bientôt, nous n'en connaîtrons plus que l'histoire. C'est pas très optimiste, hein, quand même. Mais c'est pour vous dire, c'est une plaque magnifique. Elle fait une quinzaine de mètres d'épaisseur. Voilà, elle a au moins aussi 15 ans, il faut compter un an par un mètre par an. Et l'idée, ça se passe pas sur la côte est du Groenland, c'est au niveau des Trois de Smith. C'est là, c'est une vaste quête. Je sais pas si vous avez entendu parler de l'île Hans. Ouais, c'est moi qui ai lancé ça il y a quelques années. L'île Hans, alors je vais vous raconter brièvement, parce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, je sais pas. Alors là, vous avez encore autre chose là devant les yeux. Vous avez de la banquise, la pluriannuelle, mais qui a 3-4 ans, elle n'est pas très vieille. Là aussi, c'est moi. sur un petit morceau de glace, dans mes solitudes, en train de réfléchir, mais comment je vais me prendre pour sauver cette bonne vieille terre ou cette humanité qui est... Que vais-je faire pour sensibiliser ce monde? Ça, c'est mon copain, là, que vous voyez. Ce que vous voyez, ce front de glace, il apporte un nom, il s'appelle P2 2012. P comme Peterman. Peterman, c'est le plus grand iceberg flottant de l'hémisphère boréal. Il est juste au-dessus. 2012, parce que c'est en 2012 qu'il est sorti, qu'il a vêlé, il était grand comme Paris. Et c'est des icebergs, c'est des glaciers normalement qui ne bougent pas. Ils sont en train de se disloquer aujourd'hui. Et c'est un signe d'un changement très très profond dans le climat. Voilà. Voilà. Alors l'île Hans, c'est une île, j'ai juste en parler brièvement, peut-être qu'on aura l'occasion de revenir sur le sujet, qui se trouve à équidistance entre les côtes du Danemark et celles du Groenland. Le Danemark est séparé, pas du Groenland, et du Canada. Le Danemark est séparé du Canada au plus étroit de 45 km seulement. Le Groenland, qui appartient au Danemark, hein, évidemment, c'est pour ça que je dis le Danemark, parce que politiquement, à l'échelle internationale, c'est le Danemark, c'est pas le Groenland, il n'y a pas de représentation internationale du Groenland. Et c'est un îlot, les deux pays se battent pour la souveraineté sur cet îlot qui fait à peu près 1 km², donc c'est rien. Sauf quand même, il était placé sur la ligne de partage des eaux. Donc comme les deux pays se sont partagés des eaux et pas de territoire, ils ont fait le tour de l'île. Quand ils ont dessiné leur carte, ce qui fait qu'officiellement, elle n'appartient à aucun territoire, même si elle est revendiquée par les deux pays. Et cette île, elle est au centre national qui s'appelle le chenal de Kennedy, qui permet, à partir de la zone où on est, du détroit de Smith, en fait, on est au nord de la mer, je ne sais pas si vous vous rendez compte sans la carte, mais on est au nord de la mer de Baffin. On est dans la zone qui sépare la mer de Baffin de l'océan glacial arctique, là où le Groenland touche presque la terre de l'Esmer, l'archipel nord-canadien. Donc c'est très très au nord, et cette île, elle est un peu, c'est comme s'il y avait une île au milieu du détroit de Gibraltar, si vous voulez, et qui a été simultanément revendiquée par plusieurs pays différents. Et elle a aussi une autre particularité, hormis cette incongruité politique, c'est que c'est là le départ du courant de Fram. Enfin, non, pas de Fram, c'est de l'autre côté de Fram, le courant du Labrador. C'est lui qui refroidit New York pratiquement jusqu'à la Floride. Donc c'est un courant froid, le courant du Labrador, qui prend naissance dans l'océan glacial arctique et qui passe par ce chenal. Donc on a un courant constant d'un nœud. Quelles que soient les marées, quel que soit le moment de l'année, c'est un courant constant, c'est un courant grand, ça fait partie des grands courants marins, avec de l'eau à moins 1,8 degrés. Donc c'est à la limite de température du gel, c'est-à-dire que les glaces qui sont charriées par cette eau ne fondent pas. Et ces glaces qui sont charriées par cette eau sont les glaces de mer les plus épaisses au monde. Parce que c'est dans ce secteur-là qu'elles sont retenues par le dessin des côtes, le nord du Groenland. Et donc, elles restent là 3-4 ans et elles prennent de l'épaisseur. Et donc, c'est là qu'on a les banquises pluriannuelles les plus épaisses et qui sont les derniers grands témoins de l'ère climatique qui était jusqu'à présent la nôtre et qui va passer à autre chose dès lors que ces banquises-là auront disparu. Alors, l'idée, c'était de les protéger. Comment les protéger? Je ne sais pas encore très bien comment faire, mais au moins de les observer, de savoir à quoi elles ressemblent avant qu'elles ne disparaissent. C'est pour ça qu'on est allé les filmer. Et l'idée avec cette île, c'était de proposer un territoire qui n'appartiendrait à personne, justement pour faire passer le bien commun, la notion de bien commun, avant l'intérêt particulier des nations. Parce que vous savez, là, on pourra en parler encore très brièvement, mais on pourra en reparler plus précisément tout à l'heure. Vous savez, évidemment, depuis fort longtemps maintenant, depuis 150 ans, après, il y a un grand fantasme des pays d'Occident sur les régions polaires qui renfermeraient des richesses minières, du pétrole et tout le reste. Ça date de Jules Verne, hein. Sans dessus dessous, c'est ce que ça raconte. Ça raconte la même chose. Donc, c'est pas neuf, sauf que c'est pas toujours pas réalisé. On a quelques forages pétroliers dans les zones accessibles, hein, dans le péninsule du Yamal, du côté russe et puis du côté d'Alaska américain, mais on n'est pas vraiment dans les territoires les plus froids. qui sont pas encore du tout exploités aujourd'hui. Mais dans la perspective d'exploiter, dans la perspective aussi d'utiliser une route maritime qui va s'ouvrir à la faveur de la disparition de ces glaces pérennes et permanentes, eh bien, on pourrait exploiter les zones et en faire tout ce qu'on veut, mais toujours avec l'idée de servir l'intérêt du pays qui s'en dit le propriétaire. Or, si on continue de raisonner comme ça, je pense qu'on est mort collectivement. Et c'est d'autant plus vrai quand on parle d'un grand écosystème. Certaines zones océaniques, certains déserts ou des forêts ont un rôle universel, global sur les écosystèmes globaux. C'est le cas de l'écosystème de l'océan glacial arctique. Donc s'approprier ce territoire-là, alors qu'il a un rôle vital pour nous tous, ça a quelque chose d'assez incongru, pour ne pas dire indécent. Donc la proposition, c'était simplement de dire, voilà, cette île, elle appartient à tout le monde. C'est-à-dire de proposer à tous les pays du monde de la revendiquer et de créer un précédent diplomatique en matière géopolitique. Voilà, d'un territoire qui appartient à tout le monde, mais enfin, on ne va pas entrer dans les détails, l'Antarctique, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Parce que l'Arctique, là, c'était surtout un symbole. Cette île, elle ne va pas changer le monde en tant qu'île, en tant que point géographique, mais j'étais convaincu, quand je menais ces opérations-là, qu'elle pouvait changer le monde en tant que symbole. Parce qu'on a besoin que la conscience, cette notion de conscience, de responsabilité collective, puisse s'incarner dans quelque chose. Alors évidemment, une église incarne aussi ce sens de responsabilité, le lien de l'homme avec Dieu, mais il y a plusieurs églises sur cette terre, enfin au sens large. Donc ça, c'est une sorte de point universel qui n'est pas dédié à une religion plus qu'à un autre, mais qui nous ramène à notre responsabilité naturelle et intemporelle. Voilà. Et juste pour dire cette île, je souhaitais en particulier en parler, je ne l'ai pas encore fait, au Vatican, parce que je pensais que ça pouvait aider d'avoir l'appui d'une nation qui a aussi qui a une responsabilité morale à l'endroit du reste du monde. C'est-à-dire, je voulais proposer au Vatican de revendiquer l'île Hans, parce que je ne sais pas quelle est la superficie du Vatican exactement, mais ce n'est pas bien grand. 44 hectares, mais c'est qu'il pourrait... Oui. Et je propose au Vatican de gagner 130 hectares. 130 hectares, gratuit, c'est simplement... C'est juste un jeu d'écriture. C'est-à-dire en revendiquant l'île Hans. Parce qu'en définitive, ce qui se passe là-haut, personne n'en est réellement conscient. Les pays qui en souffrent le plus du réchauffement climatique sont les pays du Sud, notamment à cause de la montée du niveau des océans, enfin, voilà, l'Indochine, l'Afrique centrale, etc., ne se rendent pas compte qu'en définitive, si la mer monte, c'est que quelque part, le robinet est ouvert. L'enjeu, c'est de refermer le robinet, c'est-à-dire d'empêcher c'était de sauver le froid, en quelque sorte, d'empêcher la chaleur de s'étendre à un tel degré qu'on ne pourra plus rien retenir. Aujourd'hui, c'est retenir le froid pour retenir la glace qui nous évite la submersion et beaucoup d'autres désagréments. Donc, cette idée d'île universelle était l'un de mes projets phares, mais qui n'a pas jusqu'à présent pu voir le jour, parce qu'évidemment, vu son ambition, il a besoin d'appui solide. Voilà. Mais on pourra en reparler. Merci.
Merci. Merci. Merci, Emmanuel, de nous avoir emmenés dans ce monde fascinant pour les enjeux qu'il a pour nous, mais aussi merci de nous avoir montré comment un homme, vous étiez à deux doigts de réussir, comment un homme, par son action, par sa dynamique, peut éventuellement changer le cours des choses. Ça, c'est très très intéressant par rapport à notre vision. Alors, je me tourne maintenant vers Laurent. Ici, le réchauffement climatique, ça fond à quelle vitesse? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui change chez nous? Quel est votre niveau d'action? Merci de nous éclairer sur ce qui se passe chez nous.
Bonsoir et merci de votre invitation. Avant de répondre à la question, je voulais m'excuser pour cet après-midi parce que je devais animer un atelier. Et puis, il s'avère que la région Pays de la Loire a lancé une opération qui s'appelle Pays de Loire Grandeur Nature. On ouvre 113 sites en proximité des Ligériens pour que les Ligériens puissent découvrir la biodiversité de proximité. Et si je vous le raconte, c'est que cet après-midi, j'étais avec un expert des plantes aromatiques et médicinales, et on s'est arrêté au pied d'un chêne. Notre-Dame est derrière moi. Au pied d'un chêne, et puis il enlève un bout d'écorce, et il dit, il faudrait que chacun d'entre vous ait de la poudre d'écorce de chêne sur lui quand il a une blessure ou une cicatrice. Alors je me devais quand même de vous raconter cette anecdote qui me paraît pleine de sens et qui peut-être m'excusera un peu plus que vous l'auriez fait si je ne vous avais pas raconté cette anecdote. Donc la question c'est de savoir, alors je te rassure, on se connaît bien donc je me permets de le tutoyer, Geoffroy, la fonte des glaces en Pays de la Loire, on la voit pas en fait. Et c'est un peu le problème, c'est-à-dire que derrière la boutade, la question, elle se pose pas du tout de la même manière. Et la question de quel effondrement écologique en Pays de la Loire, dans une région qui, dans toutes les enquêtes d'opinion, sort comme la région où il fait le mieux vivre en France. Dans les 5 départements qui la composent, 4 sortent dans les 10 premiers départements de France où il fait bon vivre. La question de l'effondrement et du réchauffement climatique, c'est pas si évident que ça. Et je crois que la première chose que nous, élus, on se doit de faire, c'est d'avoir une vision et d'avoir une approche scientifique. La question a été abordée ce matin. Trop souvent, l'écologie, quand on fait de la politique, c'est soit une religion, soit un parti politique, et pas suffisamment quelque chose de partagé, de collectif, dans le sens de ce que vous avez dit, Emmanuel, c'est-à-dire de l'intérêt général et du bien commun. Toutes les thématiques qui ont été évoquées ce matin, que ce soit la terre, l'eau, les questions de changement climatique appartiennent au bien commun. Et donc la première chose que j'ai souhaité faire, moi, en tant qu'élu, c'est on a commandé une étude avec des experts du GIEC, Hervé Le Teurtre, pour très concrètement mesurer l'impact du changement climatique en Pays de la Loire et d'être en mesure de pouvoir le poser sur la table. Derrière ce postulat, vous voyez bien que le contexte qu'on connaît aujourd'hui remet en cause, alors on est tous convaincus ici de l'enjeu du changement climatique, mais politiquement, évidemment au niveau international, mais même en France, certains se posent encore la question de l'efficience du réchauffement climatique, de son impact, et donc je pense qu'il faut qu'on soit en capacité. Même si les jeunes se mobilisent, il y a aussi des jeunes qui sont dans les logiques de... il suffit d'aller voir sur les réseaux, les médias et les réseaux sociaux, de voir comment cette question-là est souvent balayée d'un revers de la main. Donc on a une responsabilité politique d'en faire un état de fait partagé par des scientifiques indépendants qui nous éclairent dans nos décisions. Et quand je le dis, c'est vrai pour les citoyens, mais on est entre nous, c'est vrai aussi pour les politiques. Hein. Il y a encore aujourd'hui en France... et en Europe, il y a des Italiens dans la salle, certains remettent en cause la question du réchauffement climatique. Donc c'est une première chose que je voulais poser. Ceci dit, on a quand même déjà des éléments factuels. Alors évidemment, quand vous parlez de la baleine ou de la banquise, les gens ne doutent pas. Quand vous parlez des enjeux à notre échelle, bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Alors il y a deux types de constats. Je vais venir sur les constats chroniques. Et puis, on a déjà été touchés, nous, en Pays de la Loire, mais peut-être qu'on l'a trop vite oublié, par des épisodes extrêmement difficiles. En 2003, la canicule au niveau national, mais en Pays de la Loire, on l'a mesurée. Alors, tous les chiffres que je donne sont des chiffres qui sont soit vérifiables dans la logique de ce que je viens de dire sur la démarche scientifique, soit vérifiables sur le site de l'ADEME. Je salue les gens de l'ADEME qui sont dans la salle, parce que je sais qu'il y en a. De l'Oracle, je salue les gens qui travaillent à la Chambre d'agriculture parce que je sais qu'il y en a. Donc l'Oracle, c'est l'Observatoire régional de l'agriculture et du changement climatique. Et puis Météo France. Donc tous les chiffres que je donne sont consultables et vérifiables. En 2003, canicule, 968 morts de plus en Pays de la Loire, ce qui fait un épisode de plus 68% de mortalité l'été en Pays de la Loire. Ce sont des chiffres qui sont avérés, qui ont été démontrés par rapport à la moyenne des mortalités de l'été de chaque année. Autre fait marquant qu'on a oublié, la tempête Xynthia. alors qui est une conjoncture peut-être, mais aujourd'hui on sait très bien que c'est lié aussi à plein de facteurs, une marée haute puisqu'on était à un coefficient de plus de 100, on était à 102 je crois. Le fait que les aménagements, notamment la pression touristique que vous avez évoquée, Emmanuel, fait qu'on a construit dans des territoires qui étaient en dessous le niveau de la mer, plus le rehaussement du niveau de la mer sur la côte littorale vendéenne et Loire-Atlantique, c'est à peu près 3 cm tous les 10 ans le niveau de la mer qui monte. Donc c'est une réalité qu'on connaît. Tout ça a fait qu'il y a eu 53 morts liés à la tempête Xynthia. Donc ça, c'est les épisodes terribles qu'on connaîtra peut-être, d'après les scientifiques, de manière les plus fréquentes que par le passé et qui sont extrêmement marquantes. Mais il y a aussi une réalité chronique. Depuis 1960, la température au Mans, puisque nous sommes en Sarthe, a augmenté de 1 degré. Ça, c'est Météo France qui le dit, donc en un peu plus de 50 ans. C'est une réalité scientifique, mesurée, puisqu'on a une station qui mesure tous les jours la météo, et on fait des moyennes, et on sait que mathématiquement, on a augmenté de 1 degré en plus de 50 ans. Mais quand même, c'est significatif. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de ceux qui doutaient de la réalité de cet effondrement ou de du réchauffement climatique. Je n'ai pas rencontré personnellement un agriculteur qui en doutait. Ceux qui sont dans la réalité de la nature, des sols, de l'eau, des températures, je n'ai jamais... Alors peut-être que vous en avez rencontré un, il en existe peut-être un, mais j'en ai jamais rencontré personnellement. En revanche, si vous allez sur d'autres champs, vous parliez du pétrole, là, évidemment, peut-être qu'on est plus à même de douter de la réalité du changement climatique. Mais c'est une opinion, c'est pas un fait, contrairement à ce que j'ai essayé de faire jusqu'à présent. En Pays de la Loire, le degré donc, que je viens d'évoquer, ça représente, je trouve que c'est très symbolique, c'est comme si le Pays de la Loire baissé, alors j'arrive pas à l'exprimer, c'est comme si on était descendu de 100 km vers le sud. Donc géographiquement, vous voyez ce que ça représente, le Pays de la Loire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la Sarthe serait au sud de la Loire, c'est quand même... une chose que vous êtes heureux d'apprendre dans la communauté, vous êtes passé au sud de la Loire depuis quelques années. En Pays de la Loire également, et ça c'est plus inquiétant, tous les ans, on a entre 20 et 25 jours de ce qu'on appelle canicule, c'est-à-dire des températures journalières de plus de 25 degrés. C'est factuel aussi. Alors quand vous êtes vers le littoral, c'est plutôt autour de 10-12 jours. Et quand vous êtes sur les terres, c'est-à-dire dans le Saumurois, au Mans, on est plutôt ici, on est plutôt sur 20 jours de canicule, 20-25 jours supplémentaires chaque année. Donc ça, c'était pour la question des températures. Il y a un autre enjeu qu'on a évoqué tout à l'heure, et très justement, la question de l'eau. De l'eau douce, alors contrairement... peut-être que la pluie l'a confirmé. Contrairement à ce qu'on croit, les précipitations en Pays de la Loire n'ont pas diminué. Ils ont même légèrement augmenté. Si on prend par exemple la Sarthe ou le Maine-et-Loire, en moyenne, ils ont augmenté de 54 mm par an. Ce n'est pas significatif, mais c'est plutôt une tendance haussière. En revanche, ça a été souligné par Florence notamment, les épisodes sont complètement déstructurés. On peut avoir des forts épisodes de pluie en début de saison, voire au cœur de l'été, et avoir un étalement de précipitations qui ne correspondent pas à ce qu'on connaissait ces dernières années. On connaît actuellement 10% du territoire ligérien connaît une période de sécheresse. C'est essentiellement concentré au sud de la Loire, c'est-à-dire la Vendée, le Saumurois, une partie du Maine-et-Loire. Depuis quelques années, on est passé à 20-25% et on considère que dans les 5-10 ans qui viennent, ça sera 30% du territoire. Donc on multiplie par 3 le territoire ligérien concerné par une période de sécheresse, donc avec les impacts que ça peut avoir sur l'agriculture, bien évidemment. Sur l'eau, la gestion qualitative qui a été évoquée par notre ami Sartois, j'ai la chance d'être administrateur de l'Agence de l'eau. On se mobilise en Pays de la Loire, j'y reviendrai tout à l'heure sur les enjeux de l'eau. On est effectivement... sur l'aspect qualitatif, à 10% de bonne qualité d'eau. J'essaie de trouver les éléments positifs. Hein. Je n'ai pas dit 90% de mauvaise qualité. Donc 10% de bonne qualité d'eau. Je rappelle simplement que la directive communautaire européenne prévoit que la France est engagée à avoir 61% de bonne qualité d'eau en 2027. Donc il va falloir que... Florence, il va falloir qu'on bosse, hein, je te confirme. Sur la gestion quantitative, je pense que ça a été très bien démontré. Je parlais des épisodes de sécheresse aujourd'hui. Très concrètement, dans ma vie professionnelle, j'ai un projet de création d'emplois liés à une récupération de chaleur. Il y a une centaine d'emplois à la clé. Et le projet a été remis en cause uniquement pour des questions. Alors, normalement, il devrait se faire, mais il faut savoir qu'il y a des projets aujourd'hui qui sont remis en cause uniquement en raison de la gestion quantitative de l'eau. Donc, simplement pour dire que l'eau, c'est pas un sujet secondaire, c'est un projet de développement des territoires. Et en plus, c'est un territoire rural. Donc, c'est la double peine. Si aujourd'hui, les territoires ruraux ne peuvent pas se développer en raison des gestions de quantité d'eau, alors même que c'est ces mêmes territoires qui alimentent les villes, les communautés urbaines, les métropoles, les agglomérations, il va falloir qu'on ait, dans la démarche qui a été exposée tout à l'heure, en termes de consensus et de gestion collective, une gestion plus dynamique qui permette d'intégrer ces données. Deux mots sur la Loire, quelque chose qui est peu connu. Alors c'est moins parlant parce que évidemment que la banquise. Il faut savoir que en un siècle, la Loire, le lit mineur de la Loire, a perdu 4 mètres de hauteur. 4 mètres de hauteur. Il y a un effet chasse d'eau qui est bien connu des spécialistes. On a creusé, on a été chercher du sable pendant des années. Et du coup, il y a un effet chasse d'eau avec ce que ça veut dire en termes de remontée lors des périodes de grande marée. Hein, l'eau saumâtre remonte jusque pratiquement en Snie aujourd'hui. Donc avec ce que ça veut dire par rapport à la faune et aux écosystèmes présents. Et puis le littoral, je l'ai cité, plus 3 cm de hauteur d'eau tous les 10 ans, avec ce que ça veut dire en termes de risque de submersion, en termes d'attractivité du territoire. Je faisais un petit clin d'œil tout à l'heure en souriant en disant que notre région était une région extrêmement attractive sur le plan de la qualité de vie. On attend dans les 10 ans qui viennent 300 000 nouveaux habitants. On est à 3,7 millions habitants. 300 000, c'est-à-dire pratiquement plus de 10%, 8%, essentiellement sur le littoral. Donc vous voyez qu'il y a des enjeux d'aménagement du territoire, il y a des enjeux d'eau potable qui sont extrêmement forts, et donc ça interroge sur les politiques d'aménagement de nos propres espaces. Deux mots sur la biodiversité. On a en région biodiversité et agriculture, mais je sais qu'il y a des viticulteurs dans la salle, donc je ne peux pas ne pas prendre l'exemple. Si vous parlez aux anciens viticulteurs, ils faisaient les vendanges au lendemain de la guerre. En gros, chez nous, en Anjou, là où il y a les meilleurs vins, entre fin septembre, début octobre, aujourd'hui, ils les font fin août, début septembre. Il y a un mois d'écart pratiquement. C'est palpable, c'est réel, et c'est bien les effets de ce que j'ai dit tout à l'heure sur les enjeux, notamment d'écart de température que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et puis, sur la biodiversité, qui est finalement un sujet qu'on a assez peu abordé, sauf peut-être dans les écosystèmes liés à l'eau. Et puis, de ce que vous venez de dire, Emmanuel, bien sûr. Là aussi, c'est un effondrement silencieux. C'est un effondrement qui est peu palpable. Alors, dans la même balade tout à l'heure que je faisais avec... Il y avait une trentaine de personnes... Et c'était prégnant de voir on a vu un papillon dans un site qui était une réserve naturelle régionale, etc. Donc un site protégé. Et quand on a vu le papillon, tout le monde s'est exclamé. Je le dis parce que ça traduit bien l'état de dégradation de la biodiversité dans nos territoires. On sait que, par exemple, en ornithologie, il y a 30% des espèces d'oiseaux ligériens qui sont très fragiles, voire en voie de disparition. Et pourtant, on est plutôt une région avec des grandes zones de marée, avec des espaces où la pression industrielle n'est pas aussi forte, ou urbaine, même si elle est prégnante, n'est pas aussi forte que dans d'autres régions françaises. Donc, le constat, pour répondre à ta question, Geoffroy, je ne sais pas si je peux parler d'effondrement, mais la réalité de ce que vous avez vu, touché Emmanuel, on le ressent. Alors, c'est beaucoup plus diffus. C'est plus chronique, c'est moins évident et c'est beaucoup plus insidieux parce que ces petits petit à petit. C'est pas d'un coup une banquise qui s'effondre. C'est pas d'un coup des températures qui montent à 30 degrés. Mais la réalité, c'est que quand on regarde le rétroviseur depuis 40 ans, il y a une réalité qui s'installe sur notre territoire. Donc face à ça, comment agir? Deux mots. Je suis dans mon créneau ou pas? Je suis déjà trop long.
Merci Laurent de effectivement. Voilà les deux mots de la fin. Donc on va donner à Laurent. Il va terminer sur ça et après ça sera Emmanuel et après ça sera vous. Vous êtes d'accord pour poser des questions? Préparez-les. C'est dans 5 minutes à vous.
Donc je voulais simplement dire comment agir. Parce qu'en fait, c'est la responsabilité d'un politique, c'est ça. Déjà, je voudrais vous alerter sur un risque que je vois pointer, moi, et que je ne suis pas le seul à avoir pointé. C'est le débat actuel entre, qui n'est pas de la sémantique, hein, entre atténuation au changement climatique et adaptation au changement climatique. Si on bascule à l'adaptation au changement climatique, on est déjà dans autre chose, c'est-à-dire qu'on baisse les bras. Il faut absolument conserver les deux. Alors, il y a 2 jours, il y a un rapport du Sénat sur le sujet. Je vous invite à le lire. Je pense que c'est essentiel. Et là, c'est un cri du cœur qu'on soit autant engagé. L'effondrement, ça ne veut pas dire qu'on a les bras baissés, quoi. Et encore, est-ce que c'est l'effondrement? Bon, je reviens au très bon, très belle intervention d'hier soir. Je pense qu'il faut se battre pour atténuer l'impact du changement climatique. Et c'est la question du carbone. Il faut qu'on se batte techniquement, là c'est très politiquement, pour passer vers une société décarbonée. C'est un sujet qui est extrêmement fort et qu'on doit porter très clairement à tous les niveaux de décision politique. Et deuxièmement, l'adaptation. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. C'est comment on met en place des actions concrètes pour l'agriculture, pour s'adapter, ou en milieu urbain, comment faire pour diminuer la température avec les impacts qu'on connaît. Est-ce que c'est maintenant que je parle de l'action ou non? Comment tu vois les choses?
Vas-y, enchaîne sur l'action et après...
D'accord, très bien. Une société décarbonée, ça veut dire quoi? Je prends 2-3 exemples et puis après, j'essaierai de poser quels sont les consensus et avec qui on peut agir au quotidien. La société décarbonée, c'est d'abord agir sur les questions d'énergie. Donc pour nous, concrètement, en région, Pays de la Loire, c'est comment on passe de 7-8% en 2015 de production d'énergie renouvelable par rapport à la consommation globale à 21% dans les 3 ans qui viennent. Donc aujourd'hui, on est à 15%. Donc c'est se donner les moyens de produire des ENR sans être dans les logiques d'opposer les uns aux autres, c'est-à-dire le photovoltaïque, éolien, j'ose même le dire en Sarthe, méthanisation, hydrogène. Je pense que ça nécessite une mobilisation de tous ces sujets et je mets chacun des citoyens devant leur responsabilité, c'est-à-dire les mêmes qui constater le réchauffement climatique et dire il faut agir, refuseront qu'on installe une éolienne à quelques encablures de chez eux. Là, il y a quand même, ça rejoint ce que disait Emmanuel à l'instant, c'est-à-dire la responsabilité individuelle, la responsabilité collective et la notion de bien commun. On y reviendra sans doute. La question des transports, la région par exemple, sa responsabilité, c'est sans doute pas de financer l'achat de voitures, mais c'est plutôt de mettre en place des bornes électriques au niveau régional. On en a pratiquement mis en place à peu près 1000. Plus des réseaux de stations GNV pour aider les citoyens à passer à l'acte. Le but, c'est comment on crée les conditions d'un passage à l'acte sur la production d'ENR, sur les transports. Autre sujet important, l'agriculture. Comment on passe à une agriculture bas carbone? Donc là, on accompagne le monde agricole. Et moi, je veux dire combien le monde agricole nigérien a pris conscience du sujet pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure et a envie vraiment de se mobiliser sur ce sujet. Je finirai en disant à quel niveau se mobiliser. D'abord, le premier niveau, c'est le niveau de la famille. Si on reprend les propos, agir dans son champ d'influence, pour reprendre les mots de Jean-Louis Etienne qui était venu à Nantes faire un exposé, un homologue. Et qui vraiment, je pense que c'est d'abord dans la famille, au quotidien, par le changement de ses actes, de son comportement, par les décisions dans sa sphère d'influence, qu'on arrivera à commencer à faire évoluer la société. Deuxièmement, je crois que c'est dans ses paroisses, titre personnel, je quitte ma casquette d'élu, et en tant que chrétien, je crois que c'est dans les paroisses, dans les mouvements d'église, qu'on a une responsabilité extrêmement forte. Au 19e siècle, il y a eu toute la doctrine sociale de l'Église au 20e siècle, avec la mobilisation des chrétiens sur ces sujets. Je crois que là, on est à un moment donné, ça a été très bien dit tout à l'heure, à un moment donné où l'Église doit se mobiliser, et puis je vous remercie encore parce que c'est très riche de participer à ce colloque, sur ce comment on fait de l'écologie un sujet sociétal plein et entier, dans toute sa dimension, au même titre que l'Église a porté un discours sur la doctrine sociale. Je sais que Geoffroy est investi dans les semaines sociales et je pense qu'il y a un travail à faire, un peu comme le font les semaines sociales, sur la question de l'écologie. Et en ça, l'encyclique Laudato Si a été remarquable. Moi, je l'ai vécu pendant longtemps. Vous savez très bien que c'est une clé qui a déverrouillé la vision qu'avaient les Français et les chrétiens de l'écologie, qui considéraient que l'écologie était de gauche, qui appartenait à quelques personnes, et qu'il y avait une confusion totale, y compris dans le passage à l'acte. Alors forcément, je généralise, il faut faire attention, mais ça a été dit tout ce matin, très bien d'ailleurs, et bien mieux. On est quand même, grâce à Laudato Si, la capacité de faire sauter tous les verrous et de dire aujourd'hui, c'est la vision chrétienne de l'engagement chrétien de notre société, c'est comment on intègre aussi pleinement cet enjeu d'écologie. Troisièmement, la question politique, je dirais engagez-vous. Engagez-vous dans les partis politiques, je pense que c'est fondamental que les chrétiens s'engagent, que chacun s'engage dans la vie politique et par son action politique à tous les niveaux, du niveau local au niveau national, porte sa vision de la société telle que vous l'avez portée, Emmanuel. Et je finirai, parce que pour moi c'est important, par l'Europe. Je pense que l'Europe est un continent, est vraiment... l'écologie peut être le projet politique de l'Europe. Parce qu'il rejoint cette vision qu'on a d'effacer la notion du bien personnel, individuel, voire nationaliste, vers quelque chose de communautaire, de collectif. Et par essence, les enjeux de l'écologie sont des enjeux qui sont des enjeux communautaires. Ils dépassent nos frontières, que ce soit l'air, l'eau. On l'a vu avec le film qu'a porté Emmanuel. Donc je pense que vraiment, en s'engageant... et en faisant en sorte que l'Europe porte une vision de l'écologie, et on a vu d'ailleurs que l'Europe nous a fait énormément avancer sur ces sujets-là, c'est aussi un moyen d'agir concrètement pour l'écologie.
Merci Laurent. Emmanuel, est-ce que vous êtes prêt à relever le deal de dire pour vous comment vous voyez ce que l'on peut faire en 5 minutes? Est-ce que c'est gérable? Parce que j'aimerais pouvoir vous laisser la parole. Il est tard, je sais qu'il est tard. On va arrêter ferme à 10h45. Donc, en 5 minutes, comment vous voyez, peut-être vous voulez réagir par rapport à ce qu'a dit Laurent, et comment vous voyez l'action?
Merci pour ce petit temps d'expression. Mais honnêtement, ce que j'ai envie de dire, ça peut paraître brutal. Je le dirais pas si j'avais vos responsabilités politiques, Laurent. J'y crois pas du tout. La transition électrique et énergétique, et transition écologique, tout ça, c'est du pipeau. C'est un langage qui arrange tout le monde, qui arrange les écologistes parce qu'ils disent voilà, il y a de l'espoir, on va continuer de vivre de la même manière, il n'y a aucun souci. Les industriels qui s'adaptent, qui font du greenwashing, mais on sait très bien dans le bilan CO2 de ces entreprises, il n'a absolument pas changé, bien au contraire. Et ça arrange surtout les politiques qui va permettre de surfer un peu sur la vague. Ils ont cette pression des scientifiques, de la communauté civile, à laquelle ils sont bien obligés de répondre. Donc ils y répondent par quoi? Par un langage. Et le mot éolienne, ça fait partie de ce langage, mais c'est pas une réalité. On peut planter autant d'éoliennes qu'on veut, le bilan carbone de la France sera le même. C'est-à-dire que 100% des transports routiers sont assurés par les énergies fossiles. 100% des transports aériens sont attirés par les énergies fossiles. 100% des transports maritimes sont assurés par les énergies fossiles. Sans énergie fossile, il n'y a plus le monde. Il n'y a plus rien, on crève de faim. Voilà. C'est ça que je pense. Donc la transition, c'est bien joli, ben, on peut toujours s'adapter un petit peu. Vous savez, c'est Pierre Rabhi qui parle de sobriété heureuse, parce qu'il y a deux mots qui sont importants, c'est surtout le mot bonheur. Le bonheur, c'est pas la matière, c'est pas posséder, c'est pas avoir cette énergie-là, c'est pas avoir ce confort. Moi, ça, globalement, ça me fait chier pour parler français, tout ça. Je suis mieux sur mon morceau de banquise, si vous voulez, ou dans ma forêt. Et vraiment... et je pense qu'on se nourrit parce qu'on n'a pas. C'est très difficile d'admettre un échec, qui est l'échec de tous, qui est l'échec d'une civilisation, surtout depuis les 200 dernières années. C'est un véritable échec et on va le payer très bientôt, très très cher, je pense. Et c'est difficile à admettre. On a envie de continuer de se lancer. On se dit, on va corriger ceci, on va corriger cela. Moi, je n'y crois pas. Pour ça, je suis un peu brutal parce que j'ai peu de temps. Et si vous voulez, moi, ce qui me fait le plus de peine dans tout ça, c'est même pas les pollutions, c'est de voir tous ces jeunes gens ou moins jeunes qui marchent dans la rue pour marcher pour le climat. Il y avait, jusqu'au 19e siècle, il y avait des processions dans les rues de Paris organisées par l'Église, par l'évêché, pour faire venir la pluie ou le soleil, hein, quand il y avait des problèmes climatiques. Et je pense que ces processions avaient davantage de chances de s'adresser à quelqu'un quand elles s'adressaient à Dieu que les jeunes écologistes d'aujourd'hui quand ils marchent dans la rue en imaginant s'adresser au pouvoir. Au pouvoir, il n'y a personne. Il faut qu'on comprenne bien ça une fois pour toutes. Il n'y a personne. Macron, il n'en a rien à foutre de l'écologie, non seulement ça, mais même s'il en était préoccupé sincèrement par ça, et cette préoccupation, elle vient du cœur, du fond des tripes. Voilà, elle ne peut pas venir d'ailleurs, sinon c'est du pipeau. Donc si ça ne vient pas du fond des tripes et du cœur, il ne se passera jamais rien. Si le corps ne s'engage pas, il ne se passe rien. Donc voilà. Donc non seulement s'il pouvait le faire, il ne pourrait pas parce qu'on est dans un système qui n'a jamais pris en compte l'écologie dans son développement. Il a profité d'une manne, d'une produit qui était essentiellement le pétrole, qui a donné une énergie incroyable, une énergie prométhéenne. Hein, donc c'est pas forcément vers quelque chose de très sympathique. On sait comment l'histoire s'achève. Et on surfe encore sur cette tendance-là sans voir que cette crise est avant tout une crise spirituelle. Parce qu'on ne sait plus vivre. On a peur des expériences de la vie, on a peur du froid, comme je vous disais tout à l'heure, on ne veut pas se chauffer à moins de 19 degrés, enfin, j'en amène une réglementation qu'on n'utilise pas. On invente un tas d'engins compliqués, on parle de la science comme si elle va nous sauver, alors que c'est elle qui nous met plutôt dans le bazar. Et puis on a peur aussi du moindre sacrifice. Mais si on veut vraiment sauver l'humanité, si on veut vraiment sauver les faunes, la biodiversité, tout ça, il faut se sacrifier. Vous savez, Staline, il n'a pas hésité pour y sacrifier tout son peuple à Stalingrad. Enfin, pas Staline. Si, Staline à Leningrad. C'était les marées humaines et tout le monde se fait abattre comme des chiens. L'homme n'avait pas d'importance, il y avait ce sacrifice humain qui était quand même effroyable pour un objectif de guerre assez dérisoire. Et qu'est-ce que raconte le christianisme sinon l'histoire d'un sacrifice ? Un homme se sacrifie pour tous, pour nous ouvrir à cette conscience-là que nous devrions tous avoir. Et aujourd'hui, on agit en individu un peu frileux qui gère leurs acquis en définitive, en faisant un peu de politique, un peu de vert par-ci, un vert par-là, mais qu'est-ce qui vient profondément du cœur dans tout ça ? Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression que grand-chose vienne vraiment du cœur. Et quand Pierre Rabhi parle, il parle de ça au période heureuse, je pense qu'il le fait de façon sincère. Il y a des personnes qui parlent aussi de façon sincère. Vous aussi, bien entendu. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé aujourd'hui quand on fait, de tenir un langage, en fait, qui n'est pas un langage de vérité, à quelque niveau politique que ce soit. Mais plus on est proche des citoyens, plus on est proche d'un territoire, plus on a des chances d'avoir un langage qui soit vrai et utile. Et je ne sais pas comment dire les choses vraiment. Quoi. Ouais, je vous remercie, je ne sais pas combien de temps.
Je vais passer.
J'accorde un droit de réponse à Laurent Giraud. Non. Donc maintenant, la parole est à la salle. Si vous voulez poser des questions. Non,
je veux simplement dire que moi, j'ai un profond respect envers tout le monde. Je vous respecte profondément et jamais je me permettrai de remettre en cause la sincérité de ce qu'on a dans son cœur et dans ses tripes. Et ça, je le dis parce que je trouve que c'était extrêmement violent, vos propos. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que le mépris de la politique, c'est extrêmement dangereux. Parce que le politique, c'est quand même un service. Vous citez des gens, vous appropriez des citations. Moi, je veux bien, hein, je le ferai jamais, parce que je considère que le texte ne m'appartient pas et que je parlerai pas pour des gens qui ne sont pas dans la salle. Rabhi, je peux le citer, etc. Je peux en citer d'autres aussi. Mais en revanche, une chose dont je suis sûr, c'est qu'à aucun moment on peut remettre en cause la légitimité, la sincérité de quelqu'un qu'on ne connaît pas.
Je vous remercie de votre intervention, vraiment, sincèrement. Et je suis désolé si par quelques mots, je les ai bien sentis en les prononçant qu'ils étaient maladroits, qu'ils n'étaient pas fidèles à ce que je pensais. En tout cas, absolument rien n'était contre vous. Et je vous remercie de l'avoir précisé. Et je ne doute pas une seule seconde de votre sincérité, même si on se connaît fort peu. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Bon. Allez, très bien. Alors,
voilà. Alors, est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Si vous pouvez dire si ça s'adresse à l'un ou à l'autre, votre question. Merci.
Merci. Ça s'adresse un petit peu aux deux. Déjà, Emmanuel, merci pour ce témoignage de ce que vous faites, parce que franchement, vous êtes une source d'inspiration pour moi. Du coup, je ne vous connaissais pas. Et un homme qui fait ça et qui mène un combat seul... quasiment seul face à tout un monde pour une cause commune à tous. Je trouve ça admirable, franchement. Donc, je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de courage et beaucoup de soutien. En tout cas, j'espère qu'on se reverra parce que j'ai des projets qui sont presque liés. Et j'ai une question un peu plus précise concernant la Loire. Vous avez indiqué que le Pays de la Loire attend prochainement jusqu'à 300 000 habitants dans les 10 prochaines années. Donc cela va nécessiter une urbanisation, un aménagement urbaniste, etc. Ça signifie du bétonnage, ça signifie réviser un petit peu l'agriculture. On sait qu'aujourd'hui, l'agriculture, c'est quand même une des causes fondamentales de la déforestation. On est en train de parler du climat actuellement. Et bon, mon avis perso, et je pense que je suis pas le seul à le penser, c'est que le climat, il se modifie considérablement parce que justement on déforeste. Et est-ce qu'il y a des projets de reforestation dans le Pays de la Loire ?
Je pensais qu'Emmanuel voulait intervenir sur la première partie de votre question. Sur la deuxième partie, oui, bien sûr, on a mis en place les mesures environnementales et climatiques. Donc moi, simplement, ce que j'ai donné, j'ai essayé d'avoir des faits scientifiques sur la réalité de la situation. Hein. Je rappelle mon intervention précédente. Simplement des faits. Voilà, des faits. Donc, oui, il existe des dispositifs de plantation de haies et de forêts, d'agroforesterie. Il y a des MAEC, des mesures environnementales et climatiques, qui accompagnent les agriculteurs dans la plantation d'arbres dans leur champ, parce que vous savez qu'aujourd'hui l'intérêt de planter des arbres individuels, c'est qu'il y a un impact sur la qualité d'eau, il y a un impact sur la température, sur la qualité de vie des animaux et donc sur la qualité de la viande. Il y a un enjeu en termes énergétiques, parce que la haie, en la récupérant, il y a un enjeu énergétique. Donc oui, on plante via les mesures environnementales et climatiques, on les accompagne financièrement. On plante des haies au titre de la politique de l'eau et de la biodiversité. Et enfin, la stratégie régionale forestière fait que nous accompagnons la plantation de forêts en Pays de la Loire. D'ailleurs, la Sarthe est le premier département forestier des Pays de la Loire. Quand on dit 300 000 habitants, c'est qu'en France, on laisse les gens s'installer où ils souhaitent s'installer. Voilà, c'est une réalité. Et qu'on est une région attractive, j'en suis fier. Il y a d'autres moyens de réguler, hein. Mais ça ne sera pas les miens, en tout cas.
Merci. Merci à tous les deux pour vos interventions qui nous font voyager et qui nous font du bien. Merci pour votre service. Moi, je suis plus fan de la politique plus locale, mais j'aime bien les... Tant qu'on ne s'engage pas, d'une manière ou d'une autre, on ne fait pas. Ma question s'adresse plus à vous, Monsieur Géraud. Vous avez parlé au niveau énergétique et au niveau des transports sur la région, notamment sur les aides pour les bornes de voitures électriques, etc. Je reviens d'Allemagne. Et alors, il y a des voitures électriques, sauf que, d'après ce que j'en sais, le problème des éoliennes, de l'électrique, c'est pas tant que ce soit une énergie verte, c'est qu'est-ce qu'on en fait après, le recyclage des batteries, etc. Et là, on n'est plus du tout dans un bilan neutre ou positif. Et donc, je revenais d'Allemagne. Et au niveau des transports, alors, non pas pour dire que l'Allemagne est un exemple forcément au niveau énergétique, mais au niveau des transports, on peut aller quasiment dans n'importe quelle localité en Allemagne en train. Il y a un réseau incroyable. Comment se fait-il qu'en France, on ait plutôt, la tendance soit plutôt à démanteler le réseau, à enlever des petites gares, alors que c'est justement un des modes de transport le plus neutre, énergétiquement parlant? Comment se fait-il que des gares sautent, que des stations de TGV soient supprimées, qui permettraient de mieux réguler peut-être ces déplacements de population et de ne pas tout concentrer dans des zones extrêmement attractives? Merci.
Merci. Il y a plusieurs questions. Je rejoins Emmanuel sur l'idée que la transition n'est pas l'objectif final. C'est qu'un moyen. On peut pas faire... Je crois pas au grand soir en matière de transition écologique et d'écologie, de sobriété, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on emmène les citoyens avec nous. Il faut que les gens partagent sur tous les sujets. On peut pas avoir raison tout seul, surtout sur ces sujets-là. Il faut qu'on arrive à convaincre, il faut qu'on arrive à faire ensemble, il faut qu'on arrive à s'entendre, faire consensus pour tirer dans le même sens. C'est important, hein, les coups de gueule, Emmanuel, c'est important. Mais vraiment, moi, je pense que il faut qu'il y ait des gens qui gueulent et puis il y a des gens qui essayent de tirer le maximum, parce que sinon, on a ce qui s'est passé avec la taxe carbone, les gilets jaunes, le blocage. Et je pense qu'on va mettre un sacré bout de temps à remettre la taxe carbone, qui était quand même une idée assez intéressante, qui allait dans le bon sens. Et pour rejoindre votre question, les batteries électriques, c'est transitoire. Je pense que la solution de demain, les moteurs électriques, ça sera l'hydrogène, probablement. Où là, il n'y a pas la question du recyclage. Et en fait, l'urgence aujourd'hui, c'est le réchauffement climatique. Et ce que je disais tout à l'heure, l'urgence, c'est une société décarbonée. Donc comment on fait pour éviter ce que disait à juste titre Emmanuel ? Qu'on évite que les camions roulent avec du diesel. Il ne suffit pas de l'interdire. Il faut qu'on mette en place un dispositif qui pousse les gens à utiliser les transports propres. C'est pour ça que nous, on a investi à la fois dans la production de gaz propre, via la méthanisation, j'essaie de faire très vite, la distribution et des stations de GNV pour que les transporteurs... On a un constructeur en région Pays de la Loire qui s'appelle Scania, qui investit dans les transports propres. Mais ça ne sera pas du jour au lendemain. Donc c'est transitoire dans le sens où on passe à la voiture électrique dans un premier temps là, parce que l'hydrogène, c'est encore trop cher, on n'y arrive pas. Mais dans un pays comme le nôtre, où on a plutôt peu de carbone de produit par rapport à l'Allemagne que vous citez tout à l'heure, et je vous remercie d'avoir dit que c'était pas la panacée, c'est une solution transitoire. Pour les trains, le modèle de densité démographique est pas tout à fait le même entre l'Allemagne et la France. C'est beaucoup plus dense, et donc, malheureusement, c'est une réalité. Quand c'est plus dense, y a plus de gens qui prennent le train. Maintenant, je partage avec vous dans l'idéal et le nombre de gares qu'on supprime dans les petits villages de Sarthe ou de Maine-et-Loire, c'est un constat. Le modèle économique fait que la SNCF a diminué le nombre de trains. Nous, en région, on a une compétence sur le TER et on essaie d'augmenter les fréquences de TER. Mais c'est aussi une question financière, humblement, je le dis.
Alors, j'ai une
question. Merci, Laurent. Allez, j'ai je pense question, que c'est là. La dernière question, Christine.
Oui, bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'était juste effectivement par rapport alors c'est pas par rapport à vous personnellement, mais globalement les élus ce qu'il en ressort c'est effectivement ce concept de développement durable et comme on disait ce matin, c'est un oxymore. En fait, on n'insiste pas assez sur effectivement ce terme de sobriété. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir faire rentrer dans la conscience des gens et je pense pas que les gens soient si bêtes que ça, parce qu'il y en a qui commencent déjà à le faire. Et faut vraiment que dans les discours politiques, et que ce soit au niveau local ou plus haut, national, qu'il y ait vraiment une volonté de le faire. Parce que, bah voilà, sinon c'est effectivement des réponses comme vous avez eues tout à l'heure que vous pouvez, ou enfin voilà, que des élus avec qui je travaille aussi un petit peu au niveau de ma communauté de communes, ben ils se prennent des retours comme ça et c'est un peu dommage. Et nous, si on a déjà cette envie de vivre un peu comme ça, bon, malheureusement, on vit en société, donc on suit aussi un peu cette vie, développement durable, etc. Parce que voilà, on veut pas non plus se couper du reste du monde, mais c'est compliqué de la part de personnes comme nous qui essayons de le faire, de faire venir plus de monde, quoi, en fait. Donc tant que les élus, voilà, mais c'est pas contre vous personnellement.
Non, mais il va falloir. J'entends bien. Plus... Simplement, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? La famille, l'engagement dans l'Église, dans les mouvements d'Église, et troisièmement, sur le politique, j'ai dit engagez-vous.
Oui. Mais... tout le monde n'a pas forcément accès. Il suffit peut-être de le vouloir, mais malheureusement, il y a aussi des personnes dans notre société qui n'ont pas accès à certaines choses. Peut-être la religion, la famille aussi. Il y a des gens qui n'ont pas de famille, malheureusement.
Tout le monde a accès à l'engagement.
De toute façon, je suis pas tout à fait d'accord.
Je ne sais pas si ça peut conclure, mais je pense que c'est difficile. La situation est compliquée et tendue pour tout le monde. Pour tout le monde. Et votre position n'est pas facile. Personne n'a une position facile dans ce contexte-là, parce qu'on est face à quelque chose qui est, je dirais presque mécaniquement, mathématiquement insoluble. Et je pense que le mot sobriété, il vient de la spiritualité, tout simplement. La spiritualité nous enseigne la sobriété, elle n'est que ça. Et lorsqu'aujourd'hui on réagit en manifestant contre le pouvoir, en essayant de faire masse, de faire front, on est dans une démarche en définitive très, très matérialiste, je veux dire, parce que la spiritualité, c'est pas ça, c'est une relation entre soi et sa propre conscience, c'est entre soi et Dieu. Et c'est parce que la réponse, elle est en nous. C'est ça ce que dit la spiritualité. Et la force, on doit la trouver en nous. Et pas en demandant aux autres, en comptant sur les politiques qui sont là dans une situation. Ils gèrent la situation. Ils ont hérité d'une situation, ils la gèrent comme ils peuvent. Mais c'est pas eux qui vont refaire le monde. Le monde, on va le faire à notre échelle. Nous, déjà, il faut compter sur une conversion intérieure pour espérer un véritable changement. Je pense que c'est ça que je voudrais dire, quoi.
Merci à la salle pour la qualité de ces questions et pour votre patience, pour avoir duré un petit peu tard. Et merci, je crois qu'on peut les applaudir énormément, Laurent et Emmanuel.